Mais pour notre promotion, le grand événement fut la rentrée à l'école navale de Saint-Pierre-Quilbignon. Nous avions vu pendant toute notre première année ces majestueux bâtiments, non pas s'élever parce qu'ils étaient à peu près terminés, mais enfin se rafraîchir et plutôt prendre leur dernier aspect, des pelouses se faire, se tracer, se construire devant les bâtiments. Nous n'y allions pas parce que ça nous était interdit, mais nous savions qu'il y avait un capitaine de corvette qui s'appelait Jaujard, qui fut célèbre par la suite, un capitaine de corvette qui était chargé de meubler ces fameux bâtiments. Et puis un beau jour, le 1er octobre, on nous a fait rentrer le même jour que nos fistos d'ailleurs, ce qui n'était peut-être pas une heureuse chose, mais nous y sommes arrivés le 1er octobre 1935, et précédemment, avant le départ, notre commandant, le capitaine de Vesoven, nous avait dit: vous allez rentrer dans une nouvelle école, mais c'est non seulement le cadre qui va changer, mais également vos habitudes. J'exige que l'esprit collégien soit complètement banni de cette école, les traditions, ça n'existera plus. Enfin, bref, nous étions mis en garde contre toute tentative de reprise, de prise en main de nos fistos, comme nous avions été pris en main par nos anciens. Et ceci était d'autant mieux combiné que nous rentrions le même jour et nous faisions connaissance avec ces nouveaux bâtiments le même jour que nos fistos. Malheureusement, je dois dire que le commandant n'a pas vu tous ses espoirs réalisés. La première chose que nous avons fait, c'était de reprendre les traditions. On nous a intimé l'ordre de les cesser et nous avons fait ce que se faisait à l'école navale, qui était l'horrible manifestation de mauvais esprit. Nous avons fait caillement. Alors caillement à l'école navale de Lannion, ça se faisait, c'est lorsque les élèves étaient mécontents, ça se faisait autour du mât de pavillon. Comme le mât de pavillon était à l'intérieur, était dans une cour intérieure, ça n'avait pas grande importance, mais à l'école navale de Saint-Pierre, le mât de pavillon était sur la pelouse devant l'école, et ma promotion a fait caillement au vu et au su de toute la marine de Brest, puisque nous étions à la vue de tous les bateaux. Et les bateaux à ce moment-là étaient nombreux, puisque c'est l'amiral Darlan qui venait de prendre le commandant de cette flotte, qui avait été augmenté récemment. Par conséquent, notre manifestation n'est pas passée inaperçue. Les raisons ne sont pas passées inaperçues non plus. Et puis, ma foi, c'est malheureux à dire pour l'autorité militaire, mais nous avons eu, nos fistos ont eu droit à des collations. Mais en dehors de cet incident des reprises de tradition, malgré la volonté exprimée, plusieurs fois exprimée de notre commandant, une transformation importante s'est réalisée dans la nouvelle école, c'est ce qu'on a appelé l'autosurveillance. Jusque-là, à l'école navale de Lannion, nous étions dans ce qu'on appelait des batteries, c'est-à-dire qu'il y avait une moitié de promotion, donc 20 à 30 élèves, les étrangers, nous, ça devait faire 35 élèves, dans une batterie, surveillée par un second maître. Lorsque l'un de nous désirait aller sortir, ça arrivait quelquefois bien sûr, il y avait ce qu'on appelait deux marrons, c'est-à-dire deux marques en métallique, et on ne pouvait pas être absent plus de deux à la fois de cette batterie, car lorsqu'on sortait, on prenait un marron et un autre pouvait prendre le deuxième marron, et ensuite il fallait attendre que le premier marron soit revenu pour sortir. Et il y avait évidemment, au-dessus de ces seconds maîtres, il y avait toute une hiérarchie de premiers maîtres qui étaient chargés des escouades, de la surveillance le soir dans les batteries où l'on couchait. Et donc, ce qu'avait décidé le commandant Veyne était que ce sont les anciens qui surveilleraient les fistos, d'une part, et d'autre part, les anciens se surveilleraient eux-mêmes. Autrement dit, à la hiérarchie des sous-officiers, des officiers mariniers, on avait substitué une hiérarchie de chefs d'escouade anciens pour les escouades de fistos et chefs d'escouade anciens pour les escouades d'anciens. Et il n'y avait plus du tout d'officiers mariniers, sauf pour pour un rôle purement administratif. Il n'y avait absolument plus d'officier marinier de surveillance. Eh bien, alors que l'histoire des traditions n'avait pas eu de succès, au bout de l'autosurveillance s'était révélée pratiquement valable, viable. Et évidemment, au début, on se demandait un petit peu comment ça allait tourner. Évidemment, les anciens surveillants, les anciens, c'était un peu de la confiance entre anciens qui jouaient. On ne voulait pas amener de difficultés aux petits camarades. Pour les chefs d'escouade, les anciens chefs d'escouade de Fistot, le problème était un petit peu différent. Et j'ai eu à l'expérimenter, puisque le premier mois, au mois d'octobre, j'étais chef de la troisième escouade de Fistot. Évidemment, il y avait des problèmes, et surtout quand on avait des garçons un peu turbulents. J'étais en particulier chef d'escouade d'un garçon dont on a parlé plus tard, qui s'appelait Barbereau. Et il y avait des moments où, lorsqu'il y avait du chahut, car parfois les fistots étaient jeunes, ils chahutaient un peu, on se demandait un peu le chef d'escouade se demandait un peu ce qui allait arriver. Et j'en ai eu la révélation lorsqu'un jour de chahut, un capitaine qui passait dans le couloir est entré dans mon escouade et nous avons été un certain nombre à être punis. Moi-même, chef d'escouade, pour avoir laissé chahuter des élèves, celui qui faisait du chahut pour avoir chahuté, le plus ancien des fistots pour avoir autorisé le chahut. Enfin bref, nous avons été trois sur la peau de bouc à la suite de cette opération. Ça nous a montré justement comment ce qu'on appelait la Strasse envisageait la discipline et surtout et l'autosurveillance. Mais quoi qu'il en soit, ces problèmes ont été petit à petit résolus. Et je veux dire qu'au bout d'un an, il n'y avait pas de... Le système avait prouvé son efficacité. Et je dois dire que, pour anticiper ce qui arrivera plus tard à l'école navale, quand j'ai changé de bâtiment moi aussi à la Ninon, à l'Enveroc-Poulmic, eh bien j'ai été amené à faire la même chose, car depuis la guerre on avait reconstitué la hiérarchie de surveillance par sous-officiers, et en passant au nouveau bâtiment, je l'ai supprimé, fort, je crois, de l'expérience que j'avais subi étant élève de seconde année. Donc cette seconde année était marquée surtout par le changement d'ambiance provoqué par le changement de locaux et également autre fait important. À l'ancienne école navale, on était habillé en gris, c'est-à-dire que l'on portait sur le molleton, la tenue de molleton, une tenue en gris. Et à la nouvelle école navale, les fistots ont mis le molleton sans gris et les anciens étaient en uniforme, en tenue de sortie. Ceci également contribuait aussi à modifier, sinon l'état d'esprit, au moins un certain nombre d'habitants. Donc, en ce qui concerne les études, rien ne changeait par rapport à l'ancienne école de Naninon. Les professeurs étaient les mêmes. Nous avions emmené le professeur de mathématiques, évidemment le professeur d'anglais, le professeur de physique. Mais c'est l'atmosphère qui avait un peu changé. Au cours de l'année, c'est évidemment a eu lieu l'inauguration de l'école navale, la nouvelle école navale qui a eu lieu, qui a été faite par M. Albert Lebrun. Je veux dire que les élèves y ont pu participer in situ, à l'école elle-même, car nous avons passé la journée à faire un défilé nautique. Je dois dire que le défilé nautique a été horriblement long. Il fallait que toutes les embarcations de l'école navale y prenaient part. Nous n'étions pas extrêmement près de l'école. Bref, nous avons dû partir à 8 heures du matin et le défilé nautique a dû se terminer vers 2 heures. De sorte qu'on a vu surtout l'inauguration telle qu'elle a eu lieu par M. Albert Lebrun grâce aux photographies qui ont paru dans la dépêche de Brest. Autre innovation apportée à cette école, c'était la salle des fêtes. Il y avait une salle des fêtes dans l'école. Le commandant a bien sûr voulu l'inaugurer et on y a donné un bal où on a invité les jeunes filles brestoises. C'était vraiment bien la première fois depuis que l'école navale existait, c'est-à-dire depuis 1830, qu'on avait dû inviter des jeunes filles à l'école navale. La matinée, donc la soirée avait été parfaitement réussie. Enfin, ça marquait, cela aussi marquait une sorte de nouvelle école. Autre tradition perdue. Et pour aller à Brest, à l'école navale de Lannion, on prenait ce qu'on appelait la canonnière, plus exactement, on appelait même la canonne. Et on partait donc en bateau de Brest, de Lannion, on arrivait en bateau à Brest, et le soir, il s'agissait de reprendre le bateau à Brest pour Lannion. Et évidemment, comme ce bateau se prenait au bas de... À l'entrée de l'arsenal, au-dessous du grand pont, eh bien, ça est obligé à faire des cavalcades assez extraordinaires avec la cape et le sabre à travers les rues de la ville. On descendait la rue de Siam, la rue d'Aiguillon, à toute vitesse, avec le sabre et la cape, lorsque l'on entendait les coups de sirène, les coups de sifflet plutôt, de la canonne. À l'école navale de Saint-Pierre, plus du tout de canonne, il y avait des autocars qui amenaient ces messieurs au centre de Brest.